Écho d'économie sur Radio Capi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Le premier thème interactif de cette, le thème interactif de cette deuxième tranche du magazine au Capi Service. Comment répondre aux questions embarrassantes des enfants? Vous savez, plus les enfants grandissent, plus ils deviennent curieux, ils posent des tas de questions sur bon nombre des choses, des questions parfois embarrassantes pour les parents, surtout si cela touche à la sexualité. À cause des tabous, des nombreux parents se sentent gênés de répondre à ce genre de questions. question des tout petits. Si l'enfant insiste, à comment lui répondre? Il y a certains qui tapent l'enfant, qui crient sur lui, tais-toi, il faut plus me poser ce genre de questions. Alors, Pondoula, vous êtes éducateur à la vie. Bonjour.
Bonjour, Jigi.
La première question, pourquoi à un certain âge, les enfants commencent à poser trop de questions?
D'abord, il faut se dire que le cerveau humain commence à se développer très rapidement vers les dernières semaines, vers les derniers trimestres de la vie embryonnaire. Mm-hmm. Et ce processus continue même après la naissance. Et vous savez que le cerveau humain, c'est comme un ordinateur, mais plus qu'un ordinateur, parce qu'il a la capacité davantage de se développer et d'emmagasiner de plus en plus d'éléments nouveaux. Mmh. Et il est un fait naturel que le cerveau humain soit meublé, au lieu qu'il reste vide. Il y a des choses que le cerveau enregistre sans avoir trop y pensé, mmh. hein, par le regard, par l'audition, par les différents organes de sens. Il s'enrichit des différentes connaissances, des différences entre le poids et le saut, des différences entre les bruits forts et les bruits supportables, mmh. La beauté de la couleur, la distinction des différentes couleurs. Donc ces exercices-là sont relèvent de la croissance naturelle de l'enfant. Même ces questions qui semblent nous préoccuper aujourd'hui, mmh. il faut se dire que ça fait partie normal de la maturation de l'enfant. Il y a deux moments particuliers de où l'enfant pose de plus en plus de questions, notamment entre 2 et 5 ans et à la puberté, mm-hmm. si l'enfant a été initié au dialogue. Pour le deuxième cas, sinon si vous n'avez pas bien réagi quand il posait les premières questions,
oui.
quand il était
entre
tout petit,
5 ans.
Entre 2 et 5 ans, oui. vous avez raté parce qu'il risque de devenir timide et de ne pas vous poser les questions que la plupart des pubères posent à leurs parents.
Oui.
Au premier âge, entre 2 et 5 ans, pourquoi pose-t-il des questions? Effectivement, le cerveau s'est suffisamment développé et un mécanisme s'est développé par rapport à la distinction à l'identification. Déjà vers les 2 ans, l'enfant réalise qu'il est une personne différente des autres, particulièrement de sa mère. Parce qu'entre 0 et 2 ans, l'enfant croit vivre dans le prolongement de sa mère et croit que sa mère est une partie de lui-même.
Mm-hmm.
C'est quand cette rupture-là va s'observer, quand l'enfant commencera déjà à dire non, à refuser quand vous lui demandez quoi que ce soit, alors il réalise qu'il est une personne différente des autres, il est autonome et il est capable de se manifester comme une personne à part entière. Mmh. Mais une personne à part entière qui n'a pas tous les atouts, qui a besoin de comprendre
le monde, pas, l'environnement,
de connaître l'environnement, mmh. son environnement. Alors c'est à ce moment-là qu'il se met à s'interroger et à interroger les adultes qui sont autour de lui. Ce sont des questions tout à fait normales, naturelles, et la première attitude d'un bon éducateur, d'un bon parent, c'est de considérer innocente toutes les questions posées par les enfants.
Mmh. Il y a des enfants, par exemple, qui posent des questions, disant « Maman ou papa, d'où viennent les bébés comment on fait les bébés ?» Tout ça, ils s'embarrassent, certains parents.
Pourquoi ça nous embarrasse, nous les adultes? C'est parce que nous croyons qu'au-delà de cette question, il y a ce que nous nous connaissons. Vous comprenez?
Mm-hmm.
Je veux dire, le petit veut, se sent déjà qu'il est garçon, il ressemble plus ou moins à son père, et il voudrait réagir comme les autres garçons qui sont habillés comme lui, parce qu'on lui a déjà donné des habitudes d'habillement, des garçons.
Mm-hmm.
On lui a fait faire des choses qui, dans la communauté, on dit non, non, un garçon ne fait pas ça. Un garçon ne fait pas cela. Ce qui veut dire qu'il intériorise certaines attitudes et comportements qui sont favorables à son sexe.
Mm-hmm.
Et il voudrait aller plus loin. Comprendre pourquoi maman, à un moment donné, a un ventre ballonné. Pourquoi? Maman, qu'est-ce que tu as mangé pour avoir un ventre aussi ballonné?
Qu'est-ce qui est permis dans ton ventre?
C'est pas comme ça que le petit pose la question. Est-ce que tu poses la question? Maman, oui. Pourquoi ton ventre est gros comme ça?
Oui.
Alors, tout naturellement, maman dit, j'ai un bébé. Je porte ton petit frère, ta petite soeur. Rassurez-vous qu'en répondant de cette manière, il n'y a rien. Il n'y a pas une question supplémentaire qui va poser. Il a enregistré, il vous fait confiance. Il sait qu'il y a un bébé dedans. Mais ce qui embarrasse les adultes, c'est de craindre que l'enfant pose la question, comment il est entré là? Non, ce n'est pas la question d'un enfant de 2 à 3 ans. Il ne vous demandera jamais comment il est entré là.
Et à quel âge, par exemple, l'enfant peut commencer à poser cette question-là?
Il ne va même pas poser la question parce qu'il va découvrir qu'au fur et à mesure qu'il va grandir, il y a la notion de la naissance. Il va découvrir qu'il a des organes génitaux différents des organes génitaux de l'autre sexe. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il va poser la question, pourquoi tu as ça? J'étais devant deux jeunes enfants, ils se baignaient ensemble, la grande sœur, l'aînée était femme, était fille, et puis le petit pleurait. Pendant qu'il pleurait, son organe génital montait et descendait. Et puis, quand le petit a remarqué que sa sœur faisait trop attention à son organe génital, il s'est arrêté de pleurer. Et dès que le petit a arrêté de pleurer, sa grand-sœur dit, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais, fais-le encore.
Fais-le encore.
Vous comprenez? Pour nous, les adultes, c'était curieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette petite fille? Non, c'est une curiosité, l'envie d'apprendre.
C'est de l'innocence.
Et pourtant, nous, les adultes, imaginions autre chose que ça. Alors, d'emblée, je dois dire à tous les intervenants, aujourd'hui à tous les auditeurs, que les questions embarrassantes ne les sont que pour nous, les parents.
Pas pour les enfants.
Pas pour les enfants, ce sont des questions innocentes et il faut les considérer comme telles. Les enfants ont besoin d'un peu de franchise et des réponses adaptées à leur âge pour qu'ils soient satisfaits.
Albert Mwananga, vous êtes à Kananga, bonjour. Albert, bonjour.
Allô, c'est Albert Moukengeshaï de Koumbijumaï.
Albert Moukengeshaï de Koumbijumaï, ce n'est pas oui. Albert Mwananga. Oui, on vous écoute, Albert.
Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Je salue à notre invité ainsi qu'à la radio au Capi.
Merci.
Oui, j'ai trois petites préoccupations. La première, il y a un enfant, lorsque ses parents passent les relations sexuelles, et là, il voit sa maman sortir de la chambre en pleurant. Maintenant, l'enfant demande à sa mère, « Maman, pourquoi tu pleures ?» Et la maman tape l'enfant. Maintenant, je voulais savoir quelle est la réponse que la maman pouvait donner à l'enfant. Et puis, j'ai la deuxième préoccupation, j'ai l'enfant de ma marade. Lorsqu'ils sont dans la chambre, on chasse cet enfant-là. Maintenant, l'enfant vient, il me dit, « Oh, des fois, maman me chasse que je ne puisse pas dormir au lit, ceci, cela. Maintenant, je manque aussi quoi répondre à l'enfant. Maintenant, c'est ce que je voulais demander à l'invité. Qu'est-ce que je peux répondre à l'enfant? Et si l'enfant qui m'a posé la question, oh grand frère, quelle est l'importance de mon pénis ici? Je lui ai dit non, l'importance c'est d'uriner. Il me dit, à part uriner, il n'y a pas d'autre chose. Je lui ai dit, si tu connais qu'il y a d'autres choses, tu peux me le dire. Non, je ne connais pas, mais je ne peux pas créer le pénis pour ne plus qu'il y ait rien. Maintenant, je manque aussi quoi lui répondre, si je voulais un peu avoir des clarifications. Merci.
Merci Albert. Ogui Bendelo, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, je dis d'ailleurs qu'à ce moment-là, je suis notre invité, Paul Moula.
Merci.
On vous écoute, Ogui.
Oui, je dis, bon, je sais que l'enfant ne naît pas au hasard, il naît en accord de les conjoints, c'est-à-dire papa et maman. Alors, comme les parents ont l'habitude, il y a des parents qui ont l'habitude de ne pas dire la vérité à leurs enfants, on a remarqué, et surtout à nos voisins, un camarade qui a des enfants, fille et garçon, est né à 5 ans et sa petite sœur à 3 ans. Et maintenant, comme les parents n'ont pas l'habitude de dire la vérité à ces enfants-là, les garçons disent à sa petite fille, et petite fille, ils disent, moi j'ai la petite fille, donc il appelle son sexe masculin, petite fille, il dit, moi j'ai la petite fille, mais toi, tu n'en as pas. Alors, un autre jour, on ne sait comment, l'enfant, garçon, voit son papa, nuit dans la chambre, il veut dire à son maman, maman, moi aussi j'ai vu papa avec la petite fille que j'ai. Alors, l'enfant continue toujours à concevoir que cela et répond au nom de la petite parce que les parents n'arrivent pas à dire à leurs enfants ce qui est vrai. Alors, je veux dire, je vais demander à l'invité, à part avoir le nom de sexe, il faut dire aussi à l'enfant tous les rôles que le sexe va jouer.
Bien, merci Ogi Bendelo. Michel Kumpemena nous appelle de Matadi. Bonjour Michel.
Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'allais seulement donner une petite histoire par rapport au sujet du jour. Alors, il y a une fois un papa qui a reçu des invités chez lui, ses amis, et pendant qu'il parlait à ses invités, il y a l'enfant qui vient pour demander l'argent pour qu'il achète des biscuits. Alors, le papa lui dit, va dans les pantalons que j'ai apportés hier. J'ai récupéré ton confort là-bas. Alors, lorsque l'enfant est parti, en récupérant l'argent, il a trouvé trois pièces de préservatif. Alors, l'enfant a apporté et l'argent et ses pièces de préservatif. Il vient, il demande à son papa, papa, ça c'est quoi? J'ai trouvé ça dans votre poche de pantalon. Et le papa qui ne pouvait répondre parce qu'il avait des invités, il dit non. Si vous le serez, vous allez trouver un ballon d'air. Et l'enfant sérieux qui était dit non. Les garçons les portent s'ils veulent enfanter. Donc, dans l'enfant, il y a maintenant deux réponses. Et les deux réponses sont mauvaises. L'une des réponses, il n'y a pas de dit, c'est un ballon d'air. Et l'enfant, celui dit, c'est un instrument qu'on apporte lorsque les papas veulent enfanter. Donc, je ne sais pas, lorsqu'il y a deux réponses de cette manière, qu'est-ce qui peut entrer dans la conception de l'enfant?
Et où est-ce que cet enfant avait eu ces informations-là, Michel?
Bon, je ne sais pas parce que, bon, il a des frères, ses grands frères à la maison, la tenue était la cadette, peut-être parmi ses yaya, peut-être qu'il a eu cette information. Maintenant, l'enfant a une conception. Et lui-même a une mauvaise conception et le papa aussi a introduit une autre mauvaise conception. Je ne sais pas si ça peut détruire l'enfant ou comment.
Merci Michel. Mireille qui est là, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Julie.
On vous écoute.
Oui, je voulais poser deux petites préoccupations à poser à l'invité. Vous savez, à Kinshasa, il y a une certaine promiscuité. On ne sait pas toujours se payer les grandes maisons et tout. Je donne mon cas personnellement. J'ai venu d'avoir un petit garçon. Ma maison, c'est une maison chambre-salon cuisine avec douche toilettes incorporées dans la chambre. Mais je me dis, quand je quitte de la douche, bon, je ne suis pas toujours habillée pour me rendre dans la chambre et tout. Alors, avec l'enfant, à quel âge est-ce qu'on peut commencer à prendre des responsabilités qui comprend qu'on n'est pas habillé et tout? Et puis, à quel âge est-ce qu'il faudra le dissocier pour qu'il puisse aller dormir seul dans un endroit à lui, quoi, avec les parents?
Merci, Mireille Tchela. Paul Moulin, vous allez répondre rapidement à cette préoccupation.
Merci. On doit dire à Albert que les parents qui tapent parce que l'enfant a découvert la nudité ou a posé la question autour de la nudité doit faire très attention parce qu'il est en train de décourager l'enfant qui ira chercher des réponses en dehors de la famille. C'est pourquoi la meilleure formule, c'est d'aider l'enfant à comprendre que il est normal que vous dites à l'enfant que je suis en train de m'habiller ou c'est le moment d'aller dormir, je veux me reposer. Et selon les habitudes que vous lui avez données, c'est la raison d'ailleurs de la question de Madame Tchela. Vous n'avez que deux pièces où vous pouvez loger votre enfant. À quel âge faut-il les dissocier de vous pour les placer où? Au salon ou bien toujours dans la même chambre? ceux qui ont assez d'espace et qui ont assez de pièces, parfois ont des chambres où ils peuvent placer l'enfant beaucoup plus jeune, avant même qu'ils prennent conscience de la différence de sexe.
Mm-hmm.
Et il y en a qui commencent très tôt, dès le berceau, on met le petit à côté et de temps en temps on se réveille pour le récupérer. Parfois on lui prive un peu d'affectivité dont on a vu aujourd'hui, mais je pense que il n'y a pas d'âge idéal, mais au fur et à mesure que l'enfant est en train de prendre conscience de la différence sexuelle et aussi du fonctionnement des organes génitaux, il est bon qu'on les mette plus ou moins de côté. Ce qui est dramatique, c'est de donner une fausse réponse à l'enfant. Nous avons mené des enquêtes dans plusieurs écoles ici de la place. Nous avons vu que les enfants ont posé beaucoup de questions autour de 2, 3, 4, 5, 6 ans. Mais dès que la période de latence, c'est-à-dire 7 ans, 8 ans, a commencé, les enfants se sont tus et ne posaient plus de questions en famille. Est-ce que cela montrait que leur cerveau ne veut plus apprendre? Non. Au contraire, pendant cette période de latence entre 8, 9, 10, 11 ans, l'enfant comparait les réponses reçues dans la rue aux réponses reçues en famille. Ce qui fait qu'à un moment donné, il devient embarrassant et difficile aux parents de se récupérer parce qu'ils ont trompé.
C'est le cas de Michel qui nous a parlé de ses parents qui dit à l'enfant, le préservatif, non, il y a le ballon dedans. Et l'enfant dit, non, papa, les parents portent ça s'ils veulent avoir des enfants.
Oui, il y a un ballon dedans. S'il y a un ballon dedans, que fera l'enfant avec le ballon? Il jouera avec. C'est-à-dire, à votre absence, il va ouvrir les dents pour jouer avec le ballon.
Mmh. C'est
une mauvaise image, comme lui-même l'a dit.
Oui.
C'est une mauvaise image. Dire aux enfants le nom des organes génitaux, s'ils ont exprimé les besoins, il faut les leur dire. Mais n'anticipez pas. Ce n'est pas un besoin en soi, si ce n'est pas exprimé. Malheureusement, on est dans un environnement qu'on ne sait pas toujours contrôler et les enfants jouent avec des enfants des autres familles qui peuvent informer plus tôt ou plus tard ce qu'ils voudraient bien savoir.
Mm.
Mais quand il revient avec une erreur, si la notion de la queue était venue de l'extérieur, c'est le moment de dire non, c'est ton organe génital. Le mot génital, c'est trop compliqué.
Mm-hmm.
Mais je voudrais parler un langage d'enfant. Je dis, bon, c'est un organe qui te permet de faire pipi. Tout simplement.
Mm-hmm. Hein.
Les rôles restent. Mais que l'enfant a un
certain nombre de enfants, non, ça s'appelle, c'est le pipi.
C'est
le zizi.
Bon, c'est le zizi, c'est le pipi. C'est pas très beau. Parce que plus tard, il faut qu'on remplace le mot par les noms convenables.
Mmh.
Et on croira que les zizi c'est ça et les pipi c'est ça. Je me dis, il faut, si le besoin se présente, parce que dans l'éducation à la vie, nous avons remarqué que l'enfant va apprendre progressivement ce vocabulaire vers les 10, 15, 12 ans, vers les années terminales.
Alors, si on revient à la question de Mme Mireille, elle quitte sa douche pour aller en chambre sans les vêtements, à quel âge l'enfant peut commencer à comprendre les choses et à quel âge ne plus le faire?
Non, déjà, deux ans, trois ans, cet enfant va réaliser que sa mère a une constitution différente de la sienne, si c'est un garçon.
Mm-hmm.
Si c'est une fille, elle va réaliser que la maman est presque semblable à elle, mais elle va réaliser que la maman a des seins qu'elle n'a pas. Et il pourra poser des questions.
C'est bien ou pas de rester à nuit devant les enfants?
C'est pas conseillé de rester nu devant les enfants. Mais si accidentellement, il peut vous retrouver nu, ne soyez pas trop gêné et ne montrez pas que la nudité était mauvaise.
Mmh.
Parce que si on donne l'image négative de la nudité, l'identité sexuelle même est parfois entamée. Parce que on se dit, pourquoi je peux voir les pieds, pourquoi je peux voir la tête et être frustré lorsque j'ai vu la nudité de maman.
Mais
l'enfant, on verra que l'enfant va remarquer qu'au fur et à mesure qu'il grandit, on ne le laissera pas nu. il sera habillé. Donc, il y a des zones de notre organisme qu'on n'expose pas pas seulement aux enfants, à toute personne. Même les tout petits de 3 ans, 4 ans, on l'a dit. Donc, maman a aussi des organes qu'on habille, qu'on cache, qu'on ne présente pas en public. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez que vous puissiez vous présenter nu devant votre enfant?
Et s'il vous pose des questions à ce moment-là?
Si, ça dépend de la question qu'il pose. Et si elle est pertinente, vous répondez. Parce que c'est un besoin qui est né du fait qu'il a observé et qu'il a réalisé qu'il y a une différence. Pourquoi tu as des poils, pas moi? Attends, tu auras à ton âge, tu l'auras. Ça vient progressivement. C'est comme la barbe. Tu es un petit garçon, quand tu seras papa, tu auras une barbe.
Bien.
Est-ce que ça pose problème, je dis?
Non, ça pose pas problème. Peut-être à cause du tabou. Et ici, il y a des parents qui vont dire, allez, fais-toi, il faut que tu me poses ce genre de questions. Alors, on va accueillir trois auditeurs avant de terminer cet entretien. Nous avons en ligne, Béry me dit que c'est mon cas. Non, Béry, c'est le long cas. Nous avons en ligne Papa Joseph Kankou de Kalimi, Ernest Lukumoya de Kalimi et Albert Mwananga de Kananga. Papa Joseph, bonjour.
Papa Daniel, jeudi, est l'invité.
On vous écoute. Hein.
Oui, j'ai une petite préoccupation. Ici, à l'Académie où je vis, actuellement, il y a un phénomène qui se passe ici.
Oui.
Il y a quand un garçon est né dans une famille, on ne le circoncise pas quand il est encore petit. À la maternité, mais on attend que les garçons puissent grandir, qu'il atteint l'âge de 5 à 8 ans, parce que sinon le pénis ne va plus grossir si on le circoncise quand il est encore bébé à la maternité. Et on garde l'enfant de cette façon-là jusqu'à l'âge de 8 à 10 ans. Est-ce que ça a des répercussions à la grossesse, à la grandeur du pénis?
Voilà. Papa Joseph, nous parlons aujourd'hui par rapport aux questions que les enfants posent. Est-ce que les questions embarrassantes, est-ce que vous avez un sujet par rapport à une question par rapport à ça? Non, il n'est plus arrivé. Ok, on évolue. Ernest Lukumwen à l'Académie, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est les questions, les enfants qui posent des questions embarrassantes aux parents. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de cela?
Bien sûr, mais je n'ai pas une question posée, mais j'ai juste une contribution à participer juste à cette émission. Ce sujet.
Mais en même temps, vous avez une radio à côté, veuillez vous éloigner de votre poste récepteur, ou bien réduisez le volume de votre radio et vous allez écouter à participer. Bien, allez-y.
Oui, je voulais tout simplement intervenir juste dans ce sujet tel que je vous ai dit que c'est vraiment un sujet qui semble être intéressant. Mais en ce qui concerne ce sujet, je disais simplement que nous devons nécessairement, comme étant les parents, adapter certaines questions vis-à-vis de l'âge de l'enfant. Parce que nous devons simplement éviter certaines questions à répondre à l'enfant, parce que normalement en psychologie, c'est passé normalement dès l'âge questionnaire. L'enfant veut nécessairement savoir de tout et de rien. Et c'est aussi l'âge où l'enfant veut connaître quand même à la conscience, veut découvrir aussi le monde. Et raison pour laquelle les parents doivent nécessairement éviter de se comporter aussi, éviter aussi d'autres comportements qui ne pourront pas quand même contribuer à l'éducation de l'enfant, parce que cela pourrait quand même maintenir sa vie en danger. Voilà un peu ce que je voulais un peu contribuer en ce sens-là.
Merci Ernest. Albert Mwananga, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur journaliste. Albert Mwananga, je vous appelle depuis Kananga.
Quelle est votre question, Albert?
Oui, j'ai quelques questions à poser à notre invité par rapport au sujet du jour. La première question est la suivante. Que faut-il faire pour un enfant qui pose une question de conscience si on va revenir à l'étranger et quand on va donner des questions sur une question de poser? La deuxième, à quel âge réellement faut-il répondre à toutes les questions anxieuses ou embarrassantes de l'enfant? Merci beaucoup pour m'accorder la parole, M. Jumel.
Bien, merci. Antoine Boulin, vous avez la parole.
Merci. je l'ai dit à l'entrée, Albert, que les questions des enfants paraissent embarrassantes pour les adultes qui ont de l'expérience dans la vie et qui craignent qu'on leur pose d'autres questions subsidiaires à la question posée par l'enfant. La question de l'enfant est liée aux besoins, à la curiosité, comme l'a dit tout à l'heure Ernest. Et Ernest doit éviter les questions des enfants, ou d'adapter certaines questions, ou de provoquer des questions. Non, il ne s'agit pas de provoquer des questions. Il s'agit d'être à l'écoute de l'enfant, de recevoir ces questions et de les considérer comme des questions qui sont innocentes, mais des questions de curiosité qui demandent que l'on puisse combler les vides ou bien... si pas combler les vides, mais arriver à rectifier ce que la rue a enseigné. Nous avons des télévisions, nous avons des radios, nous avons qui parlent
à l'école,
qui parfois et des amis dans la rue qui parlent de certaines choses qu'ils ont vues ou vécues chez eux. Et l'enfant, pour vérifier et pour vérifier si effectivement vous êtes vrai avec lui, ou encore si ce qu'on lui a dit était correct, peut revenir en famille vous reposer la même question. C'est alors que vous devez vous dire, ouf, il est déjà intéressé par quel sujet, qu'est-ce que nous pouvons, nous, à notre niveau, lui dire qui est vrai, mais qui est aussi adapté à son âge. Ne provoquez pas des questions parce que vous avez appris que à 2-3 ans, c'est l'âge questionnaire, l'enfant pose n'importe quelle question. C'est lui qui pose des questions en rapport à ses besoins. Ce n'est pas vous qui posez des questions et qui provoquez le besoin des réponses sur lui.
Alors Albert dit, ici, on trompe un enfant, il pose une question, on lui donne des fausses informations. Qu'est-ce que cela peut entraîner comme conséquence?
C'est dangereux parce que vous n'êtes pas la seule source. Plus tard, il va accéder à d'autres sources, notamment les camarades et éventuellement à l'école, par la lecture et par les médias. Il peut apprendre une contre-vérité qui fera que vous soyez considéré comme menteur. J'ai eu une expérience avec les enfants dans une réunion. On a posé la question aux enfants si les adultes mentaient. Il y a un qui a eu le courage de dire oui. J'ai dit, donnez un exemple. Ah non, maman peut pour vous punir, vous promettre de ne pas vous donner à manger, mais à l'heure du repas, elle vous donne à manger. C'est qu'elle a menti. Alors, ça nous a tous interpellés, et lorsque nous sommes effectivement en train de répondre aux questions des enfants ou en entretien avec les enfants, nous devons faire un effort pour que nous ne puissions pas mentir, parce que cela diminue, lorsqu'il va découvrir que vous l'avez trompé, cela diminuera la confiance qu'il aura envers vous et croira que la bonne source, c'est la source de la rue ou l'autre source qui lui a donné une information contraire.
Et, mais il y a certains parents qui se fâchent lorsqu'un enfant pose une question embarrassante, les parents crient sur l'enfant, tais-toi, et que ce soit la dernière fois, je ne veux plus entendre ce genre de questions. C'est une bonne façon de réagir ou pas?
C'est comme ça qu'on devient papa lion ou maman lionne. C'est en réagissant de cette manière-là. Si vous réalisez que l'enfant vous a posé une question qui vous dérange un peu, parce que ça vous embarrasse, pas lui, ressaisissez-vous et dites, nous avons écouté l'émission, nous avons appris que la question est innocente. Je vais répondre, mais alors répondre, je vais chercher des mots, je vais donner des explications qui soit adapté à l'âge de l'enfant et à son niveau, parce que je disais qu'il y a cet âge de 2 à 5 ans qui est l'âge questionnaire, mais j'ai dit qu'un enfant qui a grandi normalement et qui et vit en dialogue avec ses parents va poser davantage d'autres questions quand il atteindra la puberté. Alors là aussi, l'aide dont ils ont besoin, c'est de la vérité qui vient des parents et une explication. Et puis, il faut vous dire que vous n'êtes pas capable de répondre à toutes ces questions, vous savez. Nous n'avons pas tout, nous sommes tous limités quelque part. Nous n'avons pas toujours les connaissances voulues pour répondre à toutes les questions.
Si le parent n'a pas la réponse appropriée, il vaut mieux se taire que de mentir.
Oui, ou encore, je n'ai pas la réponse au lieu de se taire. Il faut être franc. Dis non, moi je ne connais pas très bien cette affaire-là, mais j'ai un ami, je vais lui demander, je crois qu'il va m'aider à y répondre, ou bien je vais vérifier dans mes lectures, je te répondrai plus tard. Ce qu'un parent peut faire, c'est ce qu'un enseignant aussi honnête fait. Quand on lui a posé une question qui surpasse son niveau, il dit non, je promets de répondre plus tard. Et quand l'enfant va attendre ce moment-là, hein, votre réponse, parce que vous avez promis d'y répondre, il attendra. Faites un effort pour voir des gens qui peuvent vous aider à donner une réponse qui soit accessible à l'enfant, mais une réponse aussi qui est proche de... Qui est vraiment vrai, quoi.
Bien, Paul Mouler, psychologue et éducateur à la vie, merci et à la prochaine.
Merci, je dis, merci aux éditeurs.